Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 12, chapitre 8. Comment Gil Blas apprit que l'avis de Fabrice n'était point faux, du voyage que le roi fit à Saragosse. Cependant, ce que le poète des Asturies m'avait dit n'était pas sans fondement. Il y avait au palais une confédération furtive contre le comte-duc, de laquelle on prétendait que la reine était le chef. Et toutefois, il ne transpirait rien dans le public des mesures que les confédérés prenaient pour déplacer ce ministre. Il s'écoula même depuis ce temps-là plus d'une année sans que je m'aperçusse que sa faveur eût reçu la moindre atteinte. Mais la révolte des Catalans soutenue par la France et les mauvais succès de la guerre contre ces rebelles excitèrent les murmures du peuple qui se plaignait du gouvernement. Ces plaintes donnèrent lieu à la tenue d'un conseil en présence du roi, qui voulut que le marquis de Grana, ambassadeur de l'empereur à la cour d'Espagne, s'y trouvât. Il y fut mis en délibération s'il était plus à propos que le roi demeurât en Castille ou qu'il passât en Aragon pour se faire voir à ses troupes. Le comte-duc, qui avait envie que ce prince ne partît point pour l'armée, parla le premier. Il représenta qu'il était plus convenable à la majesté royale de ne pas sortir du centre de ses états, et il appuya son sentiment de toutes les raisons que son éloquence put lui fournir. Il n'eut pas plutôt achevé son discours que son avis fut généralement suivi de toutes les personnes du conseil, à la réserve du marquis de Grana, qui, n'écoutant que son zèle pour la maison d'Autriche, et se laissant aller à la franchise de sa nation, combattit le sentiment du premier ministre et soutint l'avis contraire avec tant de force que le roi, frappé par la solidité de ses raisonnements, embrassa son opinion, quoiqu'elle fût opposée à toutes les voix du conseil et marqua le jour de son départ pour l'armée. C'était pour la première fois de sa vie que ce monarque avait osé penser autrement que son favori, qui, regardant cette nouveauté comme un sanglant affront, en fut très mortifié. Dans le temps que ce ministre allait se retirer dans son cabinet pour y ronger en liberté son frein, il m'aperçut, m'appela, et m'ayant fait entrer avec lui, il me raconta, d'un air agité, ce qui s'était passé au conseil. Ensuite, comme un homme qui ne pouvait revenir de sa surprise, « Oui, Santillane, continua-t-il. Le roi, qui depuis plus de 20 ans ne parle que par ma bouche et ne voit que par mes yeux, a préféré la vie de Grana au mien. Et de quelle manière encore? En comblant d'éloges cet ambassadeur, et surtout en louant son zèle pour la maison d'Autriche, comme si cet Allemand en avait plus que moi. Il est aisé de juger par là, poursuivit le ministre, qu'il y a un parti formé contre moi. Et j'ai tout lieu de penser que la reine est à la tête.
Eh, monseigneur, lui dis-je, de quoi vous inquiétez-vous? Pouvez-vous craindre la reine? Cette princesse, depuis plus de 12 ans, n'est-elle pas accoutumée à vous voir maître des affaires? Et n'avez-vous pas mis le roi dans l'habitude de ne la pas consulter?
À l'égard du marquis de Grana, le monarque peut s'être rangé de son sentiment par l'envie qu'il a de voir son armée et de faire une campagne.
« Tu n'y es pas, » interrompit le comte-duc. « Dis plutôt que mes ennemis espèrent que le roi, étant parmi ses troupes, sera toujours environné des grands qui l'auront suivi, et qu'il s'en trouvera plus d'un assez mécontent de moi pour oser lui tenir des discours injurieux à mon ministère. »
Mais il se trompe, poursuivit-il. Je saurai bien, pendant le voyage, rendre ce prince inaccessible à tous les grands. Ce qu'il fit en effet, d'une manière qui mérite bien d'être détaillée. Le jour du départ du roi étant venu, ce monarque, après avoir chargé la reine du soin du gouvernement en son absence, se mit en chemin pour Saragosse. Mais, avant que d'y arriver, il passa par Aranjuez, dont il trouva le séjour si délicieux qu'il s'y arrêta près de 3 semaines. D'Aranjuez, le ministre le fit aller à Cuenca, où il l'amusa encore plus longtemps par les divertissements qu'il lui donna. Ensuite, les plaisirs de la chasse occupèrent ce prince à Molina d'Aragon. Après quoi, il fut conduit à Saragosse. Son armée n'était pas loin de là et il se préparait à s'y rendre. Mais le comte-duc lui en ôta l'envie, en lui faisant à croire qu'il se mettrait en danger d'être pris par les Français qui étaient maîtres de la plaine de Monçon. De sorte que le roi, épouvanté d'un péril qu'il n'avait nullement à craindre, prit le parti de demeurer enfermé chez lui comme dans une prison. Le ministre, profitant de sa terreur et sous prétexte de veiller à sa sûreté, le garda pour ainsi dire à vue. Si bien que les grands, qui avaient fait une excessive dépense pour se mettre en état de suivre leur souverain, n'eurent pas même la satisfaction d'obtenir de lui une audience particulière. Philippe, enfin, s'ennuyant d'être mal logé à Saragosse, d'y passer encore plus mal son temps, ou, si vous voulez, d'être prisonnier, s'en retourna bientôt à Madrid. Ce monarque finit ainsi sa campagne, laissant au marquis de Los Vélez, général de ses troupes, le soin de soutenir l'honneur des armes d'Espagne. Chapitre 9. De la Révolution de Portugal et de la disgrâce du comte-duc. Peu de jours après le retour du roi, il se répandit à Madrid une fâcheuse nouvelle. On apprit que les Portugais, regardant la révolte des Catalans comme une belle occasion que la fortune leur offrait de secouer le joug espagnol, s'en étaient saisis, qu'ils avaient pris les armes et choisi pour leur roi le duc de Bragance, qu'ils étaient dans la résolution de le maintenir sur le trône et qu'ils comptaient bien de n'en avoir pas le démenti. L'Espagne ayant alors sur les bras des ennemis en Allemagne, en Italie, en Flandre et en Catalogne. Il ne pouvait effectivement trouver une conjoncture plus favorable pour s'affranchir d'une domination qu'il détestait. Ce qu'il y a de singulier, c'est que le comte-duc, dans le temps que la cour et la ville paraissaient consternés de cette nouvelle, en voulut plaisanter avec le roi aux dépens du duc de Bragance. Mais les traits railleurs déplacés tournent ordinairement contre ceux qui les ont lancés. Philippe, bien loin de se prêter à ces mauvaises plaisanteries, prit un air sérieux qui le déconcerta et lui fit pressentir sa disgrâce. Ce ministre ne douta plus de sa chute quand il apprit que la reine s'était ouvertement déclarée contre lui et qu'elle l'accusait hautement d'avoir, par sa mauvaise administration, causé la révolte du Portugal. La plupart des grands, et surtout ceux qui avaient été à Saragosse, ne s'aperçurent pas plus tôt qu'il se formait un orage sur la tête du comte-duc qu'ils se joignirent à la reine. Et ce qui porta le dernier coup à sa faveur, c'est que la duchesse douairière de Mantoue, ci-devant gouvernante de Portugal, revint de Lisbonne à Madrid et fit voir clairement au roi que la révolution de ce royaume n'était arrivée que par la faute de son premier ministre. Les discours de cette princesse firent toute l'impression qu'ils pouvaient faire sur l'esprit du monarque, qui, revenant enfin de son entêtement pour son favori, se dépouilla de toute l'affection qu'il avait pour lui. Lorsque ce ministre fut informé que le roi écoutait ses ennemis, il s'avisa de lui écrire un billet pour lui demander la permission de se démettre de son emploi et de s'éloigner de la cour, puisqu'on lui faisait l'injustice de lui imputer tous les malheurs arrivés à la monarchie pendant le cours de son ministère. Il s'imaginait que cette lettre ferait un grand effet, croyant que le prince conservait encore pour lui assez d'amitié pour ne vouloir pas consentir à son éloignement. Mais toute la réponse que lui fit Sa Majesté fut qu'elle lui accordait la permission qu'il demandait et qu'il pouvait se retirer où bon lui semblerait. Ces paroles, écrites de la main du roi, furent un coup de tonnerre pour Monseigneur, qui ne s'y était nullement attendu. Néanmoins, quoiqu'il en fût étourdi, il affecta un air de constance et me demanda ce que je ferais à sa place. « Je prendrais, lui dis-je, aisément mon parti. J'abandonnerai la cour et j'irai à quelqu'une de mes terres passer tranquillement le reste de mes jours. »
Tu penses sainement, répliqua mon maître, et je prétends bien aller finir ma carrière à Lutsch, après que j'aurai seulement une fois entretenu le monarque. Je suis bien aise de lui remontrer que j'ai fait humainement tout ce que j'ai pu pour bien soutenir le pesant fardeau dont j'étais chargée, mais qu'il n'a pas dépendu de moi de prévenir les tristes événements dont on me fait un crime, n'étant point en cela plus coupable qu'un habile pilote, qui, malgré tout ce qu'il peut faire, voit son vaisseau emporté par les vents et par les flots. » Ce ministre se flattait encore qu'en parlant au prince, il pourrait rajuster les choses et regagner le terrain qu'il avait perdu. Mais il ne put en avoir audience, et de plus, on lui envoya demander la clé dont il se servait pour entrer, quand il lui plaisait, dans l'appartement de Sa Majesté. Jugeant alors qu'il n'y avait plus d'espérance pour lui, il se détermina tout de bon à la retraite. Il visita ses papiers, dont il brûla prudemment une grande quantité. Ensuite, il nomma les officiers de sa maison et les valets dont il voulait être servi, donna des ordres pour son départ et en fixa le jour au lendemain. Comme il craignait d'être insulté par la populace en sortant du palais, il s'échappa de grand matin par la porte des cuisines, monta dans un méchant carrosse avec son confesseur et moi, et prit impunément la route de Lutsch, village dont il était seigneur, et où la comtesse, son épouse, a fait bâtir un magnifique couvent de religieuses de l'ordre de Saint-Dominique. Nous nous y rendîmes en moins de 4 heures, et toutes les personnes de sa suite y arrivèrent peu de temps après nous. Chapitre 10. De l'inquiétude et des soins qui troublèrent d'abord le repos du comte-duc, et de l'heureuse tranquillité qui leur succéda. Des occupations de ce ministre dans sa retraite. Madame d'Olivares laissa partir son mari pour Lutsch et demeura quelques jours après lui à la cour, dans le dessein d'essayer si, par ses prières et par ses larmes, elle ne pourrait pas le faire rappeler. Mais elle eut beau se prosterner devant leur majesté, le roi n'eut aucun égard à ses remontrances, quoique préparé avec art. Et la reine, qui la haïssait mortellement, vit avec plaisir couler ses pleurs. L'épouse du ministre ne se rebuta point. Elle s'humilia jusqu'à implorer les bons offices des dames de la reine. Mais le fruit qu'elle recueillit de ses bassesses fut de s'apercevoir qu'elles excitaient le mépris plutôt que la pitié. Désolée d'avoir fait en 20 ans de démarches humiliantes, elle alla rejoindre son époux, pour s'affliger avec lui de la perte d'une place qui, sous un règne tel que celui de Philippe IV, était peut-être la première de la monarchie. Le rapport que cette dame fit de l'état où elle avait laissé Madrid redoubla le chagrin du comte-duc. « Vos ennemis, lui dit-elle en pleurant, le duc de Medinaceli et les autres grands qui vous haïssent, ne cesse de louer le roi de vous avoir ôté du ministère. Et le peuple célèbre votre disgrâce avec une joie insolente, comme si la fin des malheurs de l'État était attachée à celle de votre administration. Madame, lui dit mon maître, suivez mon exemple, dévorez vos chagrins. Il faut céder à l'orage qu'on ne peut détourner. J'avais cru, il est vrai, que je pourrais perpétuer ma faveur jusqu'à la fin de ma vie. Illusion ordinaire des ministres et des favoris, qui oublient que leur sort dépend de leur souverain. Le duc de Lerme n'y a-t-il pas été trompé aussi bien que moi, quoiqu'il s'imaginât que la pourpre dont il était revêtu fût un sûr garant de l'éternelle durée de son autorité. C'est de cette façon que le comte-duc exhortait son épouse à s'armer de patience, pendant qu'il était lui-même dans une agitation qui se renouvelait tous les jours par les dépêches qu'il recevait de Don Henri, lequel, étant demeuré à la cour pour observer ce qui s'y passerait, avait soin de l'en informer exactement. C'était Scipion qui apportait les lettres de ce jeune seigneur, auprès de qui il était encore et avec qui je ne demeurais plus depuis son mariage avec Donna Juana. Les dépêches de ce fils adopté étaient toujours remplies de fâcheuses nouvelles.
et malheureusement on n'en attendait pas d'autre de lui. Tantôt il mandait que les grands ne se contentaient pas de se réjouir publiquement de la retraite du comte-duc, qu'ils étaient tous réunis pour faire chasser ces créatures des charges et des emplois qu'elles possédaient et les faire remplacer par ses ennemis. Une autre fois, il écrivait que Don Luis de Haro commençait d'entrer en faveur et que, suivant toute apparence, il allait devenir premier ministre. De toutes les choses chagrinantes que mon maître apprit, celle qui parut l'affliger davantage fut le changement qui se fit dans la vice-royauté de Naples, que la cour, pour le mortifier seulement, ôta au duc de Médina de las Torres, qu'il aimait, pour la donner à l'amirante de Castille, qu'il avait toujours haï. On peut dire que pendant 3 mois, Monseigneur ne sentit dans la solitude que trouble et que chagrin. Mais son confesseur, qui était un religieux de l'ordre de Saint-Dominique et qui joignait à une solide piété une mâle éloquence, eut le pouvoir de le consoler. À force de lui représenter avec énergie qu'il ne devait plus penser qu'à son salut, il eut, avec le secours de la grâce, le bonheur de détacher son esprit de la cour. Son Excellence ne voulut plus savoir de nouvelles de Madrid et n'eut plus d'autre soin que de se disposer à bien mourir. Madame d'Olivares, de son côté, faisant un assez bon usage de sa retraite, trouva, dans le couvent dont elle était fondatrice, une consolation préparée par la Providence. Il y eut, parmi les religieuses, de saintes filles dont les discours pleins d'onction tournèrent insensiblement en douceur l'amertume de sa vie. À mesure que mon maître détournait sa pensée des affaires du monde, il devenait plus tranquille. Voici de quelle manière il réglait sa journée. Il passait presque toute la matinée à entendre des messes dans l'église des religieuses. Ensuite, il revenait dîner, après quoi il s'amusait pendant 2 heures à jouer à toutes sortes de jeux avec moi et quelques-uns de ses plus affectionnés domestiques. Puis il se retirait ordinairement tout seul dans son cabinet, où il demeurait jusqu'au coucher du soleil. Alors il faisait le tour de son jardin, ou bien il allait en carrosse se promener aux environs de son château, accompagné tantôt de son confesseur et tantôt de moi. Un jour que j'étais seule avec lui et que j'admirais la sérénité qui brillait sur son visage, je pris la liberté de lui dire « Monseigneur, permettez-moi de laisser éclater ma joie. À l'air de satisfaction que je vous vois, je juge que votre Excellence commence à s'accoutumer à la retraite. » « J'y suis déjà tout accoutumé, » me répondit-il. « Et quoique je sois depuis longtemps dans l'habitude de m'occuper d'affaires, je te proteste, mon enfant, que je prends de jour en jour plus de goût à la vie douce et paisible que je mène ici. » Chapitre 11. Le comte-duc devient tout à coup triste et rêveur, du sujet étonnant de sa tristesse et de la suite fâcheuse qu'elle eut. Monseigneur, pour varier ses occupations, s'amusait aussi quelquefois à cultiver son jardin. Un jour, que je le regardais travailler, il me dit en plaisantant « Tu vois, Santillane, un ministre banni de la cour, devenu jardinier à Lutch. » « Monseigneur, lui répondis-je sur le même ton, je m'imagine voir Denis de Syracuse, maître d'école à Corinthe. » Mon maître sourit de la réponse et ne me sut pas mauvais gré de la comparaison. Nous étions tous ravis au château de voir le patron, supérieur à sa disgrâce, trouver des charmes dans une vie si différente de celle qu'il avait toujours menée, lorsque nous nous aperçûmes avec douleur qu'il changeait à vue d'œil. Il devint sombre, rêveur, et tomba dans une mélancolie profonde. Il cessa de jouer avec nous, et ne parut plus sensible à tout ce que nous pouvions inventer pour le divertir. Il s'enfermait après son dîner dans son cabinet, où il demeurait tout seul jusqu'au soir. Nous nous imaginions que sa tristesse était causée par des retours de sa grandeur passée, et dans cette opinion, nous lâchions après lui le père dominicain, dont pourtant l'éloquence ne pouvait triompher de la mélancolie de Monseigneur, laquelle, au lieu de diminuer, semblait aller en augmentant. Il me vint dans l'esprit que la tristesse de ce ministre pouvait avoir une cause particulière qu'il ne voulait pas dire, ce qui me fit former le dessein de lui arracher son secret. Pour y parvenir, j'épiai le moment de lui parler sans témoin, et l'ayant trouvé, « Monseigneur, lui dis-je d'un air mêlé de respect et d'affection, est-il permis à Gil Blas d'oser faire une question à son maître ?»«
Tu peux me parler, » me répondit-il, « je te le permets. »«
Qu'est devenu, » repris-je, « cet air content qui paraissait sur le visage de votre Excellence ? N'auriez-vous plus l'ascendant que vous aviez pris sur la fortune ? Votre faveur perdue exciterait-elle en vous de nouveaux regrets ? Seriez-vous replongé dans cet abîme d'ennui d'où votre vertu vous avait tiré ?»«
Non, grâce au ciel, » repartit le ministre, « ma mémoire n'est plus occupée du personnage que j'ai fait à la cour, et j'ai pour jamais oublié les honneurs qu'on m'y a rendus. »«
Eh, pourquoi donc ? » lui répliquai-je. « Si vous avez la force de n'en plus rappeler le souvenir, avez-vous la faiblesse de vous abandonner à une mélancolie qui nous alarme tous ? Qu'avez-vous, mon cher maître ? » poursuivis-je en me jetant à ses genoux. « Vous avez sans doute un secret chagrin qui vous dévore. Pouvez-vous en faire un mystère à Santillane, dont vous connaissez la discrétion, le zèle et la fidélité ? Par quel malheur ai-je perdu votre confiance ?»«
Tu la possèdes toujours, » me dit Monseigneur, « mais je t'avouerai que j'ai de la répugnance à te révéler ce qui fait le sujet de la tristesse où tu me vois enseveli. Cependant, je ne puis tenir contre les instances d'un serviteur et d'un ami tel que toi. Apprends donc ce qui fait ma peine. Ce n'est qu'au seul Santillane que je puis me résoudre à faire une pareille confidence. »
« Oui, » continua-t-il, « je suis la proie d'une noire mélancolie qui consume peu à peu mes jours. Je vois presque à tout moment un spectre qui se présente devant moi sous une forme effroyable. J'ai beau me dire à moi-même que ce n'est qu'une illusion, qu'un fantôme qui n'a rien de réel, ces apparitions continuelles me blessent la vue et m'inquiètent. Si j'ai la tête assez forte pour être persuadée qu'en voyant ce spectre, je ne vois rien, je suis assez faible pour m'affliger de cette vision.
Voilà ce que tu m'as forcé de te dire, » ajouta-t-il. Juge à présent si j'ai tort de vouloir cacher à tout le monde la cause de ma mélancolie. »
J'appris avec autant de douleur que d'étonnement une chose si extraordinaire et qui supposait un dérangement dans la machine. « Monseigneur, » dis-je au ministre, « cela ne viendrait-il point du peu de nourriture que vous prenez, car votre sobriété est excessive ?»
« C'est ce que j'ai pensé d'abord, » répondit-il, « et pour éprouver si c'était à la diète que je m'en devais prendre, je mange depuis quelques jours plus qu'à l'ordinaire, et tout cela est inutile, le fantôme ne disparaît point. »
« Il disparaîtra, » repris-je pour le consoler, « et si votre Excellence voulait un peu se dissiper en jouant encore avec ses fidèles serviteurs, je crois qu'elle ne tarderait guère à se voir délivrée de toutes ces noires vapeurs. »
Peu de temps après cet entretien, Monseigneur tomba malade, et sentant que l'affaire deviendrait sérieuse, il envoya chercher deux notaires à Madrid pour leur faire faire son testament. Il fit venir aussi trois fameux médecins qui avaient la réputation de guérir quelquefois leurs malades. Aussitôt que le bruit de l'arrivée de ces derniers se répandit dans le château, on n'y entendit que des plaintes et des gémissements. On y regarda la mort du maître comme prochaine, tant on y était prévenu contre ces messieurs. Ils avaient amené avec eux un apothicaire et un chirurgien, ordinaires exécuteurs de leurs ordonnances. Ils laissèrent d'abord les notaires faire leur métier, après quoi ils se disposèrent à faire le leur. Comme ils étaient dans les principes du docteur Sangrado, dès la première consultation, ils ordonnèrent saignée sur saignée, en sorte qu'au bout de 6 jours, ils réduisirent le comte-duc à l'extrémité, et le 7e, ils le délivrèrent de sa vision. Après la mort de ce ministre, il régna dans le château de Lutsch une vive et sincère douleur. Tous ses domestiques le pleurèrent amèrement. Bien loin de se consoler de sa perte par la certitude d'être compris dans son testament, il n'y en avait pas un qui n'eût volontiers renoncé à son legs pour le rappeler à la vie. Pour moi, qui l'avais le plus chéri et qui m'étais attaché à lui par pure inclination pour sa personne, j'en fus encore plus touché que les autres. Je doute qu'Antonia m'écoutait plus de larmes que le comte duc. Chapitre 12. De ce qui se passa au château de Lutsch après la mort du comte duc et du parti que prit Santillane. Le ministre, ainsi qu'il l'avait ordonné, fut inhumé sans pompe et sans éclat dans le monastère des religieuses, au bruit de nos lamentations. Après les funérailles, madame d'Olivares nous fit lire le testament, dont tous les domestiques eurent sujet d'être satisfaits. Chacun avait un legs proportionné à la place qu'il occupait, et le moindre legs était de 2000 écus. Le mien était le plus considérable de tous. Monseigneur me laissait 10 000 pistoles, pour marquer l'affection singulière qu'il avait eue pour moi. Il n'oublia pas les hôpitaux, et fonda des services annuels dans plusieurs couvents. Madame d'Olivares renvoya tous les domestiques à Madrid toucher leur legs chez l'intendant Don Raymond Caporis, qui avait ordre de les leur délivrer. Mais je ne pus partir avec eux. Une grosse fièvre, fruit de mon affliction, me retint au château 7 à 8 jours. Pendant ce temps-là, le père de Saint-Dominique ne m'abandonna point. Ce bon religieux m'avait pris en amitié. Et, s'intéressant à mon salut, il me demanda, quand il me vit convalescent, ce que je voulais devenir. « Je n'en sais rien, lui répondis-je, mon révérend père. Je ne suis point encore d'accord avec moi-même là-dessus. Il y a des moments où je suis tenté de m'enfermer dans une cellule pour y faire pénitence. » « Moment précieux !» s'écria le dominicain. « Seigneur de Santillane, vous feriez bien d'en profiter. Je vous conseille en ami, sans que vous cessiez pour cela d'être séculier, de vous retirer dans notre couvent de Madrid, par exemple, de vous en rendre bienfaiteur par une donation de tous vos biens et d'y mourir sous l'habit de Saint-Dominique. Il y a bien des personnes qui expient une vie mondaine par une pareille fin. » Dans la disposition où était mon esprit, le conseil du religieux ne me révolta point, et je répondis à sa révérence que je ferais sur cela mes réflexions. Mais ayant consulté là-dessus Scipion, que je vis un moment après le moine, il s'éleva contre cette pensée, qui lui parut une idée de malade. « Fis donc, seigneur de Santillane, me dit-il, une semblable retraite peut-elle vous flatter ? Votre château de Lyrias ne vous en offre-t-il pas une plus agréable? Si vous en étiez autrefois charmé, vous en goûterez encore mieux les douceurs présentement que vous êtes dans un âge plus propre à vous laisser toucher des beautés de la nature. » Le fils de la Coscolina n'eut pas de peine à me faire changer de sentiment. « Mon ami, lui dis-je, tu l'emportes sur le père de Saint-Dominique. Je vois bien, en effet, que je ferais mieux de retourner à mon château. Je m'arrête à ce parti. Nous regagnerons Lyrias aussitôt que je serai en état d'en reprendre le chemin. » Ce qui arriva bientôt, car n'ayant plus la fièvre, je me sentis en peu de temps assez fort pour exécuter cette résolution. Nous nous rendîmes à Madrid, Scipion et moi. La vue de cette ville ne me fit plus autant de plaisir qu'elle m'en avait fait auparavant. Comme je savais que presque tous ses habitants avaient en horreur la mémoire d'un ministre dont je conservais le plus tendre souvenir, je ne pouvais la regarder de bon œil. Aussi je n'y demeurai que 5 ou 6 jours, que Scipion employa aux préparatifs de notre départ pour Lyrias. Pendant qu'il songeait à notre équipage, j'allai trouver Caporis qui me donna mon legs en doublon. Je vis aussi les receveurs des commanderies sur lesquelles j'avais des pensions. Je pris des arrangements avec eux pour le paiement. En un mot, je mis ordre à toutes mes affaires. La veille de notre départ, je demandai au fils de la Coscolina s'il avait pris congé de Don Henri. « Oui,
me répondit-il. Nous nous sommes séparés ce matin, tous deux à l'amiable. Il m'a pourtant témoigné qu'il était fâché que je le quittasse. Mais s'il était content de moi, je ne l'étais guère de lui. Ce n'est point assez que le valet plaise au maître. Il faut encore que le maître plaise au valet. Autrement, ils sont l'un et l'autre fort mal ensemble. D'ailleurs, ajouta-t-il, Don Henri ne fait plus à la cour qu'une pitoyable figure. Il est tombé dans le dernier mépris. On le montre au doigt dans les rues, et on ne l'appelle plus que le fils de la génoise. Jugez s'il est gracieux pour un garçon d'honneur de servir un homme déshonoré. Nous partîmes enfin de Madrid un beau jour au lever de l'aurore, et nous prîmes la route de Cuenca. Voici dans quel ordre et dans quel équipage. Nous étions, mon confident et moi, dans une chaise tirée par deux mules conduite par un postillon. Trois mulets chargés de nos hardes et de notre argent et menés par deux palefreniers nous suivaient immédiatement. Et deux grands laquais, choisis par Scipion, venaient ensuite monter sur deux mules et armés jusqu'aux dents. Les palefreniers de leur côté portaient des sabres et le postillon avait deux bons pistolets à l'arçon de sa selle. Comme nous étions sept hommes, dont il y en avait six fort résolus, je me mis gaiement en chemin, sans appréhender pour mon legs. Dans les villages par où nous passions, nos mulets faisaient orgueilleusement entendre leurs sonnettes. Les paysans accouraient à leurs portes pour voir défiler notre équipage, qui leur paraissait tout au moins celui d'un grand qui allait prendre possession d'une vice-royauté. Chapitre 13. Du retour de Gil Blas dans son château, de la joie qu'il eut de trouver Séraphine, sa filleule Nubile, et de quelle dame il devint amoureux. J'employai 15 jours à me rendre à Lirias, rien ne m'obligeant d'y aller à grande journée. Tout ce que je souhaitais, c'était d'y arriver heureusement, et mon souhait fut exaucé. La vue de mon château m'inspira d'abord quelques pensées tristes en me rappelant le souvenir d'Antonia. Mais je sus bientôt m'en distraire, ne voulant m'occuper que de ce qui pouvait me faire plaisir. Outre que 22 ans qui s'étaient écoulés depuis sa mort en avaient fort affaibli le sentiment. Sitôt que je fus entré dans le château, Béatrix et sa fille vinrent me saluer d'un air empressé. Ensuite, le père, la mère et la fille s'accablèrent d'accolades avec des transports de joie qui me charmèrent. Après tant d'embrassements, je dis, en regardant avec attention ma filleule, que je trouvais fort aimable. Est-il possible que ce soit là cette Séraphine que je laissais au berceau quand je partis de Lirias? Je suis ravie de la revoir si grande et si jolie. Il faut que nous songions à l'établir. Comment donc, mon cher parrain? S'écria ma filleule en rougissant un peu de mes dernières paroles. « Il n'y a qu'un instant que vous me voyez et vous songez déjà à vous défaire de moi. »« Non, ma fille, lui répliquai-je, nous ne prétendons point vous perdre en vous mariant. Nous voulons un mari qui vous possède sans qu'il vous enlève à vos parents et qui vive, pour ainsi dire, avec nous. » « Il s'en présente un de cette espèce, » dit alors Béatrix. « Un gentilhomme de ce pays-ci a vu Séraphine un jour à la messe dans la chapelle de ce hameau et en est devenu amoureux. Il m'est venu voir, m'a déclaré sa passion et demandé mon aveu. Vous jugez bien quelle réponse je lui ai faite. Quand vous auriez mon agrément, lui ai-je dit, vous n'en seriez pas plus avancé. Séraphine dépend de son père et de son parrain, qui seuls peuvent disposer d'elle. Tout ce que je puis pour vous, c'est de leur écrire pour les informer de votre recherche, qui fait honneur à ma fille. « Effectivement, messieurs, poursuivit-elle, c'est ce que j'allais incessamment vous mander. Mais vous voilà revenus. Vous ferez ce que vous jugerez à propos. » « Au reste, dit Scipion, de quel caractère est cette Hidalgo? Ne ressemble-t-il pas à la plupart de ses pareils? N'est-il pas fier de sa noblesse et insolent avec les roturiers ?»« Oh, pour cela, non !» répondit Béatrix. « C'est un garçon d'une douceur et d'une politesse achevée, de bonne mine d'ailleurs, et qui n'a pas encore 30 ans accomplis. » « Vous nous faites,
dis-je à Béatrix. « Un assez beau portrait de ce cavalier. Comment s'appelle-t-il »
« Don Juan de Jutella, » repartit la femme de Scipion. « Il n'y a pas longtemps qu'il a recueilli la succession de son père, et il vit dans son château, éloigné d'ici d'une lieue, avec une sœur cadette qu'il a sous sa conduite.
« J'ai autrefois, » repris-je, « entendu parler de la famille de ce gentilhomme. C'est une des plus nobles du royaume de Valence. »
« J'estime moins la noblesse, » s'écria Scipion, « que les qualités du cœur et de l'esprit, et ce don Juan nous conviendra si c'est un honnête homme. »
« Il en a la réputation, » dit Séraphine en se mêlant à l'entretien. « Les habitants de Lyrias qui le connaissent en disent tous les biens du monde. »
À ces paroles de ma filleule, je regardais avec un sourire son père, qui, les ayant saisis aussi bien que moi, jugea que le galant ne déplaisait point à sa fille. Ce cavalier apprit bientôt notre arrivée à Lyrias, puisque 2 jours après, nous le vîmes paraître au château. Il nous aborda de bonne grâce, et, bien loin de démentir par sa présence ce que Béatrix nous avait dit de lui, il nous fit concevoir une haute opinion de son mérite. Il nous dit qu'en qualité de voisin, il venait nous féliciter sur notre heureux retour. Nous le reçûmes le plus gracieusement qu'il nous fut possible. Mais cette visite ne fut que de pure civilité. Elle se passa tout en compliments de part et d'autre. Et Don Juan, sans nous dire un mot de son amour pour Séraphine, se retira en nous priant seulement de lui permettre de nous revenir voir et de profiter d'un voisinage qu'il prévoyait lui devoir être d'un grand agrément. Lorsqu'il nous eut quittés, Béatrix nous demanda ce que nous pensions de ce gentilhomme. Nous lui répondîmes qu'il nous avait prévenus en sa faveur et qu'il nous semblait que la fortune ne pouvait offrir à Séraphine un meilleur parti. Dès le jour suivant, je sortis après le dîner avec le fils de la Coscolina pour aller rendre la visite que nous devions à Don Juan. Nous prîmes la route de son château, conduit par un guide, qui nous dit, après 3 quarts d'heure de chemin, « Voici le château du seigneur Don Juan de Jutella. » Nous eûmes beau regarder de tous nos yeux dans la campagne, nous fûmes longtemps sans l'apercevoir. Nous ne le découvrîmes qu'en y arrivant, attendu qu'il était situé au pied d'une montagne, au milieu d'un bois, dont les arbres élevés le dérobaient à notre vue. Il avait un air antique et délabré, qui prouvait moins l'opulence de son maître que sa noblesse. Néanmoins, quand nous y fûmes entrés, nous trouvâmes la caducité du bâtiment compensée par la propreté des meubles. Don Juan nous reçut dans une salle bien ornée où il nous présenta une dame qu'il appela devant nous sa sœur Dorothée et qui pouvait avoir 19 à 20 ans. Elle était fort parée, comme une personne qui, s'étant attendue à notre visite, avait envie de nous paraître aimable. Et, s'offrant à ma vue avec tous ses charmes, elle fit sur moi la même impression qu'Antonia, c'est-à-dire que je fus troublée. Mais je cachai si bien mon trouble que Scipion même ne le remarqua pas. Notre conversation roula, comme celle du jour précédent, sur le plaisir mutuel que nous nous faisions de nous voir quelquefois et de vivre ensemble en bons voisins. Il ne nous parla point encore de Séraphine, et nous ne lui dîmes rien qui pût l'engager à nous déclarer son amour. Nous étions bien aises de le voir venir là-dessus. Pendant notre entretien, je jetai souvent la vue sur Dorothée, quoique j'affectasse de l'envisager le moins qu'il m'était possible. Et toutes les fois que mes regards rencontraient les siens, c'était autant de traits nouveaux qu'elle me lançait dans le cœur. Je dirais pourtant, pour rendre une exacte justice à l'objet aimé, que ce n'était point une beauté parfaite. Si elle avait la peau d'une blancheur éblouissante et la bouche plus vermeille que la rose, son nez était un peu trop long et ses yeux trop petits. Cependant, le tout ensemble m'enchantait. Enfin, je ne sortis point du château de Jutella comme j'y étais entré. Et, m'en retournant à Lyrias, l'esprit rempli de Dorothée, je ne voyais qu'elle, je ne parlais que d'elle. « Comment donc, mon maître ?» me dit Scipion en me considérant d'un air étonné. Vous êtes bien occupé de la sœur de Don Juan. Vous aurait-elle inspiré de l'amour ?
Oui, mon ami, lui répondis-je, et j'en rougis de honte.
Oh ciel ! Moi qui, depuis la mort d'Antonia, ai regardé 1000 jolies personnes avec indifférence, faut-il que j'en rencontre une qui m'enflamme à mon âge sans que je puisse m'en défendre ?
Eh bien, monsieur, reprit le fils de la Coscolina, vous devez vous applaudir de l'aventure au lieu de vous en plaindre. Vous êtes encore dans un âge où il n'y a point de ridicule à brûler d'une amoureuse ardeur, et le temps n'a point assez flétri votre front pour vous ôter l'espérance de plaire. Croyez-moi, quand vous reverrez Don Juan, demandez-lui hardiment sa sœur. Il ne peut la refuser à un homme comme vous. Et d'ailleurs, s'il faut absolument être gentilhomme pour épouser Dorothée, ne l'êtes-vous pas ? Vous avez des lettres de noblesse, cela suffit pour votre postérité. Lorsque le temps aura mis sur ses lettres le voile épais dont il couvre l'origine de toutes les maisons, après 4 ou 5 générations, la race des Santillanes sera des plus illustres.
Chapitre 14. Du double mariage qui fut fait à Lyrias et qui finit enfin l'histoire de Gil Blas de Santillane. Scipion m'encouragea par ce discours à me déclarer amant de Dorothée, sans songer qu'il m'exposait à un refus. Je ne m'y déterminai néanmoins qu'en tremblant. Quoique je ne parusse pas avoir mon âge et que je pusse me donner 10 bonnes années de moins que je n'en avais, je ne laissais pas de me croire bien fondé à douter que je plusse à une jeune beauté. Je pris pourtant la résolution d'en risquer la demande, sitôt que je verrai son frère, qui, de son côté, n'étant pas sûr d'obtenir ma filleule, n'était pas sans inquiétude. Il revint à mon château le lendemain matin, dans le temps que j'achevais de m'habiller. « Seigneur de Santillane, me dit-il, je viens aujourd'hui à Lyrias pour vous parler d'une affaire sérieuse. » Je le fis passer dans mon cabinet, où d'abord, entrant en matière, « Je crois, continua-t-il, que vous n'ignorez pas le sujet qui m'amène. J'aime Séraphine. Vous pouvez tout sur son père. Je vous prie de me le rendre favorable. Faites-moi obtenir l'objet de mon amour, que je vous doive le bonheur de ma vie. »
« Seigneur Don Juan, lui répondis-je, comme vous allez d'abord au fait, vous ne trouverez pas mauvais que je suive votre exemple, et qu'après vous avoir promis mes bons offices auprès du père de ma filleule, je vous demande les vôtres auprès de votre sœur. »
À ces derniers mots, Don Juan laissa éclater une agréable surprise, dont je tirai un augure favorable.
« Serait-il possible, s'écria-t-il ensuite, que Dorothée eût fait hier la conquête de votre cœur ?
Elle m'a charmé, lui dis-je, et je me croirais le plus heureux de tous les hommes si ma recherche vous plaît à l'un et à l'autre. »
« C'est de quoi vous devez être assuré, me répliqua-t-il. Tout noble que nous sommes, nous ne dédaignerons pas votre alliance. »
« Je suis bien aise, lui repartis-je, que vous ne fassiez pas difficulté de recevoir pour beau-frère un roturier. Je vous en estime davantage. Vous montrez en cela votre bon esprit. Mais quand vous seriez assez vain pour ne vouloir accorder la main de votre sœur qu'à un noble, sachez que j'ai de quoi contenter votre vanité. J'ai travaillé 20 ans dans les bureaux du ministère, et le roi, pour récompenser les services que j'ai rendus à l'État, m'a gratifié des lettres de noblesse que je vais vous faire voir. » En achevant ces paroles, je tirai mes patentes d'un tiroir où je les tenais humblement cachées et je les présentai au gentilhomme qui les lut d'un bout à l'autre attentivement avec une extrême satisfaction.
« Voilà qui est bon, » reprit-il en me les rendant. « Dorothée est à vous. »
« Et vous, » m'écriai-je, « comptez sur Séraphine. » Ces deux mariages furent donc ainsi résolus entre nous. Il ne fut plus question que de savoir si les futurs y consentiraient de bonne grâce. Car Don Juan et moi, également délicats, nous ne prétendions point les obtenir malgré elles. Ce gentilhomme retourna au château de Jutella pour me proposer à sa sœur, et moi j'assemblais Scipion, Béatrix et ma filleule pour leur faire part de l'entretien que je venais d'avoir avec ce cavalier. Béatrix fut d'avis qu'on l'accepta pour époux sans hésiter, et Séraphine fit connaître par son silence quel était du sentiment de sa mère. Pour le père, il ne fut pas, à la vérité, d'une autre opinion. Mais il témoigna quelque inquiétude sur la dot qu'il faudrait, disait-il, donner à un gentilhomme dont le château avait un si pressant besoin de réparation. Je fermai la bouche à Scipion, en lui disant que cela me regardait, et que je faisais présent à ma filleule de 4000 pistoles pour payer sa dot. Je revis Don Juan dès le soir même. « Vos affaires, lui dis-je, vont à merveille. Je souhaite que les miennes ne soient pas dans un plus mauvais état. »« Elles vont aussi le mieux du monde, » me répondit-il. « Je n'ai pas été à la peine d'employer l'autorité pour avoir le consentement de Dorothée. Votre personne lui revient et vos manières lui plaisent. Vous appréhendiez de n'être pas de son goût, et elle craint, avec plus de raison, que n'ayant à vous offrir que son cœur et sa main... « Et que voudrais-je de plus ? » interrompis-je tout transporté de joie. « Puisque la charmante Dorothée n'a point de répugnance à lier son sort au mien, c'est tout ce que je demande. Je suis assez riche pour l'épouser sans dot, et sa seule position comblera tous mes vœux. » Don Juan et moi, fort satisfaits d'avoir heureusement amené les choses jusque-là, nous résolûmes, pour hâter nos noces, d'en supprimer les cérémonies superflues. J'abouchai ce gentilhomme avec les parents de Séraphine, et après qu'ils furent convenus des conditions du mariage, il prit congé de nous, en nous promettant de revenir le lendemain avec Dorothée. L'envie que j'avais de paraître agréable à cette dame me fit employer 3 bonnes heures pour le moins à m'ajuster, à m'adoniser. Encore ne pus-je parvenir à me rendre content de ma personne. Pour un adolescent qui se prépare à voir sa maîtresse, ce n'est qu'un plaisir, mais pour un homme qui commence à vieillir, c'est une occupation. Cependant, je fus plus heureux que je ne le méritais. Je revis la sœur de Don Juan, et j'en fus regardé d'un œil si favorable que je m'imaginais valoir encore quelque chose. J'eus avec elle un long entretien. Je fus charmé du caractère de son esprit, et je jugeais qu'avec de bonnes façons et beaucoup de complaisance, je deviendrais un époux chéri. Plein d'une si douce espérance, j'envoyai chercher 2 notaires à Valence, qui firent le contrat de mariage. Puis nous eûmes recours au curé de Paterna, qui vint à Lirias, et nous maria, Don Juan et moi, à nos maîtresses. Je fis donc allumer pour la seconde fois le flambeau de l'hyménée, et je n'eus pas sujet de m'en repentir. Dorothée, en femme vertueuse, se fit un plaisir de son devoir, et, sensible aux soins que je prenais d'aller au-devant de ses désirs, elle s'attacha bientôt à moi comme si j'eusse été jeune. D'une autre part, Don Juan et ma filleule s'enflammèrent d'une ardeur mutuelle. Et, ce qu'il y a de singulier, les 2 belles-sœurs conçurent l'une pour l'autre la plus vive et la plus sincère amitié. De mon côté, je trouvai dans mon beau-frère tant de bonnes qualités que je me sentis naître pour lui une véritable affection, qu'il ne paya point d'ingratitude. Enfin, l'union qui régnait entre nous tous était telle que le soir, lorsqu'il fallait nous quitter pour nous rassembler le lendemain, cette séparation ne se faisait pas sans peine, ce qui fut cause que des 2 familles, nous résolûmes de n'en faire qu'une, qui demeurerait tantôt au château de Lirias et tantôt à celui de Jutella, auquel, pour cet effet, on fit de grandes réparations des pistoles de son excellence. Il y a de cela 3 ans, ami lecteur, que je mène une vie délicieuse avec des personnes si chères. Pour comble de satisfaction, le ciel a daigné m'accorder 2 enfants, dont l'éducation va devenir l'amusement de mes vieux jours, et dont je crois pieusement être le père. »